Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Esprit Sport. On est avec vous pour vous accompagner pendant une heure pour parler évidemment de sport. Pour m'accompagner aujourd'hui, toujours fidèle au poste, toujours prêt à faire des heures supplémentaires pour cette émission, aussi précis qu'un aviateur sur ses analyses. Bonjour Corentin.
Bonjour Jonathan, bonjour à tous.
On vous a bien entendu là, vous nous avez cassé les tympans. Comment ça va?
Ça va très bien et vous?
Est-ce que vous avez passé un bon week-end?
Un bon week-end, oui, et toujours sportivement par procuration.
Merci beaucoup. On retrouve aussi cet amoureux des petites équipes, de ces petits poussés, de ces sportifs qui ne sont pas attendus, qui nous étonnent, qui nous font rêver et qui nous en parlent avec le cœur et la passion. Autant vous dire que si vous lancez un sujet avec lui, vous êtes assuré de plonger dans un très long mais bon moment. Bonjour Erwan.
Merci, bah dis donc, vous me vendez très très bien Jonathan.
Ben, on a passé 45 minutes tout à l'heure à parler de ces petits poussés qui vous font en rêver.
Oui, effectivement, c'est vrai que moi j'ai une fascination pour ces petites équipes qui se transcendent le temps d'une compétition.
Eh bien, peut-être qu'on va en parler justement tout à l'heure dans les tops et les flops. Justement, on va les retrouver dans quelques instants pour ceux qui découvrent un petit peu l'émission. C'est un rapide récapitulatif des sportifs qui ont brillé ou pas ce week-end. À suivre aussi un face-à-face avec Olivier Leprêtre, coach mental spécialiste du sport. Il nous parlera de son métier, mais aussi de sa façon d'aborder le mental des sportifs, qui est un sujet important, surtout en ce moment. Ensuite, il sera l'heure de débattre. Dans deux semaines auront lieu les premiers quarts de finale de la Coupe du Monde de rugby. Il reste encore 8 matchs de poule, ce qui nous fera un total de 40 matchs pour avant les phases finales. Et est-ce que justement, les phases finales de Coupe du Monde ne sont-elles pas trop longues? On va essayer de débattre autour de ce sujet. On parlera aussi dans la chronique du jour de la retraite de Peter Sagan, un véritable chaînon du cyclisme dans la chronique du jour, dont Erwan va se charger. Et évidemment, on terminera avec deux pronostics, deux matchs. 30 secondes, Corentin et Erwan, pour donner un petit peu leurs astuces pour qui va gagner, qui va perdre, le score exact peut-être aussi. Mais tout de suite, on commence par l'actualité sportive de la région. C'est avec Corinne Saint-Félix et c'est tout de suite.
L'infosport avec Corinne Saint-Félix.
Un immense temple de la natation se dessine sur l'île du Ramier.
Oui, à l'instar du Stade Toulousain qui entretient son complexe à Ernest Vallon ou du TFC qui se construit un campus au cœur de Toulouse, les Dauphins du TOEC, plus grand club de natation de France, pourraient bientôt bénéficier d'un tout nouveau QG. Après avoir annoncé la poursuite du plan piscine qui consiste à réhabiliter les bassins de la Ville Rose, le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudinc, a confirmé sa volonté de soutenir le projet de cité de la natation sur l'île du Ramier, un grand projet qui va permettre aux Dauphins du TOEC de se développer encore plus et de former des champions. Dans l'ombre de son champion Léon Marchand, élu meilleur nageur des derniers championnats du monde de natation au Japon, 5 autres figures du club ont participé à la compétition en juillet dernier.
Rencontre nationale française de rugby subaquatique samedi à l'Union.
Oui, une rencontre qui a mis en lumière un sport collectif aquatique unique opposant deux équipes mixtes de 6 joueuses et joueurs. En apnée, avec palme, masque et tuba, le rugby subaquatique consiste à se battre pour la possession d'une balle lestée et marquer des buts au fond de la piscine dans des paniers. Ce sport met l'accent sur la stratégie, la coordination d'équipe et la maîtrise de l'apnée. Cette journée a pu permettre de découvrir ce sport et de rencontrer les équipes participantes composées de joueuses et joueurs licenciés à la Fédération française d'études et de sports sous-marins.
En cyclisme, le Challenge Aveyron se déroulait à Villefranche-de-Rouergue dimanche.
Le coureur du guidon de Casse-Villois s'est adjugé le Grand Prix de Villefranche, théâtre de l'ultime manche du Challenge sur route 2023 et le maillot blanc de leader. La dernière manche de la saison sur route promettait un sprint final haletant dans le centre-ville de Villefranche-de-Rouergue et ça n'a pas manqué, c'est le trio qui menait le général avant le départ qui a fait la course en tête jusqu'à se disputer la victoire du jour et le maillot blanc au sprint. Et comme un an plus tôt, c'est le coureur du guidon de Casse-Villois, Julien Kessial, qui est rentré chez lui avec le titre. Cette fois en faisant coup double, la course et le maillot. En suivant les rangs du classement, Jérémy Boudignon prenait la deuxième place et Thomas Devez la troisième.
Et en Ligue 1, le Toulouse FC remporte son premier match à domicile de la saison contre le FC Metz.
Oui, ce sont deux concurrents directs qui se retrouvaient pour la 7e journée de Ligue 1. Au coup de sifflet final, Toulouse repart avec 3 points grâce au but de Schmidt, Dalinga Marseille m'a gris. 0 pointé pour Metz. Les Toulousains étaient jusque-là sur 5 rencontres sans victoire, dont une défaite 2-1 contre Lens la semaine dernière. À la 14e minute, le virage bristatouin a déployé une banderole en hommage aux supporters décédés il y a maintenant 14 ans.
Et justement, après le flash d'informations sportives en région, on retrouve les tops et les flops de ce week-end.
Les tops et les flops.
Et pour débuter cette première séquence de l'émission, on va commencer par vous, Corentin.
Alors pour mes tops, on va parler des 100 km de Millau, dont on n'a pas entendu parler dans le flash. Il y avait déjà tellement à dire sur les actus en région. Alors pour commencer, on va saluer d'abord tous les participants et les participantes. Parce que je peux vous dire qu'étant un local de l'épreuve, on en a vu passer des gaillards et des gaillardes qui sont assez fous pour se lancer dans une course de 100 km. Alors il y avait aussi des marathoniens, mais bon, un marathon, ça, dans les jambes, ça, il faut déjà encaisser. Donc chez les femmes, c'est Stéphanie Guiquel qui s'est imposée en 8h21 minutes 34 secondes. Elle pulvérise d'ailleurs le record qui datait de 2003. L'édition 2023 générale a été remportée par Gabriel Noutari, qui nous vient tout droit de Caussade, qui est vainqueur l'an passé, 3e en 2019 et 5e en 2018. Il a remporté l'épreuve en 6h58 minutes et 3 secondes. C'est moins long que la trilogie du Seigneur des Anneaux en version longue. Sinon, avec le même chrono aussi, c'est le temps qu'il faut pour se prendre, par exemple, 3150 KO par Cédric Doumbé. À vous de choisir, mais moi je préfère quand même le cinéma.
Ouais, Cédric Doumbé, ça fait écho à mon top.
Voilà, mais pour mon flop, j'aurais aimé parler de la victoire du Portugal, mais ça faisait deux tops, donc on va plutôt parler de ce match, mais par le prisme de l'arbitrage qui me déçoit de plus en plus dans cette Coupe du Monde. On va parler de l'arbitrage envers les petites nations du rugby. Je vous pose la question à vous autour de la table, mais aussi à vous qui nous écoutez. J'aime bien prendre un petit peu les gens à partie comme ça. Pensez-vous que World Rugby avantage les grandes nations, que ce soit sur le terrain ou même en dehors, lors des commissions de discipline, pour évaluer la gravité des cartons? Alors, le but n'est pas d'aller s'en prendre aux arbitres. Là, je pose une question vraiment sur l'aspect structurel, général, de l'arbitrage proposé par World Rugby avec les consignes, etc. On a pu voir quelques matchs qui ont quand même un petit peu questionné. Donc voilà, moi, j'ai pas de réponse à la question, mais je trouve quand même qu'il y a plusieurs matchs, dont le match Portugal-Australie, où il y a eu quelques faits de jeu qui auraient pu être plus en faveur des Portugais. Est-ce que les arbitres ont un biais lorsqu'ils officient face à des petites équipes et qu'il y a une grosse équipe en face? Je me pose la question.
Moi, pour prendre la parole sur ce sujet qui est très intéressant, je pense surtout que les petites équipes ont un biais. C'est, comme vous le disiez, Corentin, c'est important. Mais je pense aussi qu'il est dû au fait que World Rugby se base en fait sur tout ce qui va être championnat professionnel, par exemple des grosses nations, où il n'y a que les grosses nations qui y jouent, pour établir et modifier ces règles. Ils vont aussi se baser sur tout ce qui va être le Six Nations, le Rugby Championship. Et en fait, ils se basent quasiment que sur ça pour modifier les règles. On n'a jamais entendu l'histoire. On a entendu l'histoire, par exemple, les règles sur les rugs ont évolué après le fameux match des rugs fantômes où l'Italie n'a joué quasiment aucun rug contre l'Angleterre et a failli gagner à Twickenham. On n'a jamais entendu parler de l'histoire d'un match Zimbabwe-Kenya où le Zimbabwe a trouvé une faille dans la règle et on a changé la règle à cause de ça.
Exemple, est-ce que World Rugby prend en bonne faveur les grosses équipes? Oui, la Nouvelle-Zélande, avec une annulation d'un carton jaune et d'une d'un carton rouge et d'une potentielle suspension d'un joueur néo-zélandais avant la Coupe du Monde.
Oui, mais ça, alors là, c'est plus World Rugby, c'est une commission indépendante qui gère ça, et il n'y a aucun membre de World Rugby pour le coup.
Ils auraient pu taper du poing sur la table et dire, bah non, attendez, il y a une Coupe du Monde qui arrive, non, c'est suspension, c'est tout ça, voilà. Ils auraient pu peut-être faire quelque chose.
Ils auraient pu, surtout qu'ils l'ont fait pour Owen Farrell, mais...
On a dit grandes équipes, petites équipes. L'Angleterre, on va les mettre dans petites équipes, du coup. Corentin.
Ouais, non, c'était pour réagir justement sur ce phénomène des suspensions avec les commissions indépendantes, mais on voit par exemple ce qui s'est passé avec Jonathan Sexton, qui a eu des mots assez chargés envers un arbitre, alors que Jonathan Sexton n'était même pas sur la feuille de match. Imaginez aujourd'hui si ça devait arriver dans un championnat mineur ou dans un championnat amateur. Je pense que le mec, il est radié du rugby pour un, voire deux ans pour un comportement comme celui-là. Jonathan Sexton, il a pris trois matchs pour service rendu au rugby. Je pense que, quelle que soit la grandeur du gars, il faut rester grand jusqu'au bout et s'en prendre un arbitre alors que vous n'êtes même pas sur le terrain, même pas dans l'adrénaline du match. Ça fait partie des choses qui, moi, me posent vraiment question. C'est pas la question d'avoir un casier vierge ou quoi. Aujourd'hui, c'est aussi une question d'exemple qu'on montre pour ceux qui vont faire du rugby à des niveaux inférieurs.
Et le prénom ne fait pas tout. Erwan, votre top et votre flop?
Alors moi pour mon top, comme on a pu l'évoquer du coup dans le Flash Sport, je vais faire le petit coup de projecteur sur TFC Metz, et même j'ai envie de dire le gros coup de projecteur, parce que sincèrement, Toulouse ils ont vraiment fait un carton avant de revenir à l'Europe. Ça a été vraiment impressionnant, cette victoire 3-0, alors que ça faisait plus d'un mois, excusez-moi, que...
La dernière victoire à domicile c'était contre la Roma cet été en match amical.
Effectivement, et même la dernière victoire, il n'y avait eu qu'une seule victoire, il me semble, depuis le début de la saison, et elle datait d'il y a plus d'un mois, donc le TFC, il s'était un peu abonné au match nul, mais pas aux victoires, et le virage Brice-Taton attendait vraiment une victoire à Toulouse, surtout que le TFC, c'est pas vraiment ça depuis son retour en Ligue 1 à la maison. En Ligue 2, on a mémoire de très très grands matchs, on se rappelle du match contre le Paris FC par exemple, où le stadium avait été comble, et je crois que sur cette saison-là, ça avait été le record de l'affluence en Ligue 2. On se rappelle des nombreuses invasions de terrain qu'il y avait eu d'abord pour la montée en Ligue 1 et ensuite pour le titre en Ligue 2. Mais c'est vrai que depuis sa montée en Ligue 1, le TFC, c'est pas ça. Et notamment, moi, je trouve que le TFC, ils ont brillé grâce à un excellent joueur. Alors, certes, il y a eu 3 buts de 3 personnes différentes, Schmid, Dalinga et Magri. Et moi, c'est Mikael Dessler que j'ai envie de mettre en avant parce que sur les 3 derniers matchs, je le trouve réellement excellent. En fait, c'est un joueur qui a une vraie capacité d'être un leader, je trouve, même au niveau européen. C'est un excellent latéral. Et il a réalisé sur le match 2 passes clés, et surtout il a réussi 94% de ses passes. Et en fait, depuis que du coup la saison de Abourlal est dans le doute, et même que maintenant on sait qu'elle est sûrement terminée, Mikael Dessler, il a pris le rôle de leader sur le côté. Techniquement, c'est pas le plus fin. Dans la vision de jeu, c'est pas le joueur le plus incroyable, mais c'est un joueur qui répète les efforts de manière incroyable et qui, quand je pense que quand on est un peu démoralisé, quand on sait plus trop donner de la tête, voir un joueur faire des efforts pareils pour aller récupérer le ballon, pour aller remettre de l'avancée, ça remobilise toute une équipe et ça, c'est ce qu'il faut au TFC.
Schmidt qui a d'ailleurs débloqué son compteur de but à la 31e.
Et Dalinga en Ligue 1 aussi.
Alors que Magri, lui, a marqué grâce à un très bon. On en a parlé dans les dernières émissions d'ailleurs, un ballon récupéré au milieu de terrain. On se posait un petit peu de questions lors du retour de Spierings la dernière fois, disponible en podcast évidemment. On se disait, est-ce que ce milieu de terrain il va tenir? Oui, puisqu'il récupère des ballons et que maintenant il marque des buts.
Oui, exactement. Alors, il y a quelques doutes sur le reste du milieu de terrain, mais c'est vrai que Spierings, il permet de souffler. Parce que quand on voit le sort qui est réservé à Vincent Siro, qui a été largement hué par les supporters de Toulouse, on se dit que heureusement qu'il y a des joueurs qui sont de 1 appréciés par les supporters et de 2 qui font réellement le travail.
D'ailleurs, je vais vous prendre un petit peu au dépourvu, Erwan. Est-ce que vous pouvez nous dire le nom du club qui va jouer face au TFC en Ligue Europa, le prochain club qui vient?
Alors, je vois que ça essaie de me piéger, donc je vais essayer de le dire sans trop de soucis. C'est le Linzer Athletic Sport Club en Haute-Autriche.
Voilà, c'est en Haute-Autriche. Donc ça sera le prochain match. Ça sera ce jeudi. Reste à la fin de l'émission parce que on va en parler justement de ce match. Votre flop?
Mon flop, ça sera l'organisation du Super Sevens. Alors, ça fait... Si vous ne savez pas ce que c'est le Super Sevens, déjà, franchement, c'est pas très grave, hein, parce que, on va pas se mentir, la Ligue Nationale de Rugby fait pas énormément de publicité autour. Au début, c'était la vocation de se dire que maintenant que le rugby à 7 était aux Jeux Olympiques, il fallait développer le rugby à 7 en France, surtout que, comme vous le savez, les JO en 2024 vont avoir lieu cocorico à Paris. Cependant, cette mise en avant, elle est étrangement faite, parce que auparavant, la saison dernière, on se rappelle que le Super Sevens avait eu lieu en fin d'été, ce qui était plutôt une bonne idée, parce que dans l'idée un peu de tout le monde, le Sevens, c'est un peu comme le toucher, c'est un sport d'été qu'on fait avec des copains, hors saison, voilà, il n'y a plus de match à faire, avec ceux du club qui sont pas encore partis à vacances ou pas encore partis à la plage, on va faire un petit tournoi avec eux pendant le week-end, etc., c'est sympa. Le problème, c'est que cette ambiance, elle a été gardée dans une fin d'été, début d'automne bizarre, alors que y a un petit événement en ce moment, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est la Coupe du Monde de rugby. Donc forcément, ça crée un peu de compétition qui est totalement disproportionnée, parce que bien évidemment, tout le monde regarde la Coupe du Monde de rugby. Du coup, les épreuves de Super Sevens, il y a eu 3 étapes. Est-ce que par exemple, Corentin, Jonathan, vous êtes capable de me dire où ont lieu les 3 étapes?
Non.
Voilà, c'est normal, je pense, parce qu'il y a absolument...
Corentin, je suis sûr qu'il l'a.
Corentin ?
Il me semblait qu'il y en avait, et je crois qu'il y en avait une à Clermont, mais je ne suis pas sûr.
Ah oui,
c'est ça, exactement, il y en a une. La
Clermont,
première...
Pau et Toulouse.
Non, Clermont-Pau, oui, mais c'est à Lyon, la deuxième. Et du coup, bah voilà, le fait qu'il y ait un pseudo-championnat de France de rugby à 7 et qu'on n'ait même pas, qu'il y a que 3 étapes et qu'on ne soit même pas capable de dire où ont lieu les 3 étapes, bah, c'est quand même un peu triste. De la même manière, je suis sûr que voilà, pas grand monde n'est capable de dire que c'est Monaco, Pau et Bordeaux qui font le podium. Et bah, il faut savoir qu'il y aura la finale donc, voilà, du Super 7, ce qui aura encore lieu pendant la Coupe du Monde, alors que sur les saisons précédentes, elle avait lieu bien longtemps après les étapes de qualification. La finale du Super Sevens, ou l'étape finale tout du moins, elle aura lieu le 22 octobre, soit pendant le week-end des demi-finales. Et vraiment, moi, je peine à comprendre pourquoi on donne une telle exposition au rugby à 7 en le mettant en même temps que la Coupe du Monde. C'est une concurrence qui n'a aucun sens et qui nuit complètement aux volontés déjà de la fédération et des diffuseurs de vouloir rendre ce sport attrayant pour le grand public.
Quentin.
Oui, non, juste pour dire que c'est dommage parce que c'est souvent des journées avec plusieurs petits matchs et ça fait une ambiance qui est très sympa avec des gens qui viennent de plusieurs horizons pour supporter leur club. Donc allez voir du Seven si jamais vous avez l'occasion, ça peut être très intéressant.
D'ailleurs, on est ravis de faire connaître aux auditeurs l'équipe de rugby de Seven de Monaco. Voilà. Est-ce qu'il y a autant d'ambiance qu'au stade Louis II pendant les matchs de foot ?
On n'est pas sûr. Déjà, ils jouent même pas à Monaco en plus, je crois.
Ils jouent même pas.
Ils jouent à Beau Soleil à côté, il me semble.
Voilà, donc, ils sont quand même champions d'Europe, hein, Monaco. Attention, rugby à 7. Hein.
C'est la Corentin qui se porte en porte-étendard du rugby à 7.
Ils ont une très bonne équipe de Fédéral 2 aussi, je crois. Voilà, mais là, je pense que j'ai perdu un peu de monde.
Oui. Là, je vous cache pas qu'on est un peu parti à l'ouest. D'ailleurs, important de partir à l'ouest. Mon top, il s'agit de, je sais pas si vous l'avez entendu, un combat de MMA mix martial art. C'est un petit peu deux hommes dans une cage et celui qui ressort vivant a gagné. Voilà, il y a eu un combat de franco-français lors d'une compétition qui s'appelle le PFL. Et ce combat était un petit peu Cédric Doumbé face à son ancien entraîneur, Fernand Lopez. Et le combattant qui était dans la cage face à Cédric Doumbé, c'était Jordan Zebo. Beaucoup de communication de la part de Cédric Doumbé qui a pour habitude d'être ce qu'on appelle une grande gueule et qui a même envoyé un matelas à Jordan Zebo pour lui dire, en lui disant si tu prends un KO au moins tu pourras bien dormir. Eh bien la durée du combat, je vous le donne en mille, elle a duré 8 secondes. Le combat a duré 8 secondes. Un coup de pied de la part de Jordan Zebo agrippé par Cédric Doumbé, gauche, droite, merci, on éteint les lumières, à la maison, il n'y avait plus personne. Toutes les personnes qui ont payé leur billet pour aller voir ce combat, ben écoutez, c'était 8 secondes, j'espère, bien rentabilisé. Il y a eu beaucoup de joueurs du PSG, d'ailleurs, on a pu le voir sur les images. Mais voilà, c'était vraiment dans cet esprit d'octogone sans règles, et ben ça a duré 8 secondes, chrono en main. Normalement, ça dure plusieurs rounds, un petit peu comme les autres sports de combat. Là, franchement, ça a été très, très, très étonnant. Beaucoup de personnes ont été choquées. Je rappelle que Cédric Doumbé est 7 fois champion du monde de kickboxing.
J'espère que les combats qui avaient lieu avant étaient à minimum sympas pour effectivement les gens qui ont payé leur place.
Ils étaient plus longs, je vous cache pas, mais 8 secondes pour le combat, il y a eu beaucoup, beaucoup de personnes, il y a eu beaucoup de ce qu'on appelle de hype, d'envie autour de ce match. Mais ça a duré 8 secondes, voilà, c'est assez impressionnant. Bon, celui qui a pris un KO, un coup en dessous de la mâchoire va bien, pas de panique, tout s'est bien passé, mais voilà, le MMA qui se démocratise et le MMA qui fait partie d'ailleurs, il n'y a pas de fédération française de MMA, ça n'existe pas. Le MMA est rattaché à la fédération française de boxe.
Ouais. Et pendant longtemps, il me semble que la fédération française, enfin les gens qui voulaient créer une fédération française de MMA, ils étaient plutôt opposés à la fédération française de judo, oui, notamment. Oui. Parce que bah, ces deux sports, on peut tenir des gens au sol, sauf que bien évidemment, la notion de tenir des gens au judo est très, très courte, on va dire, et assez peu violente comparée à celle du MMA.
Ça peut paraître violent.
Et du coup, il y avait vraiment un petit combat entre les deux. Espérons que ça s'arrange à l'avenir afin que le plus de monde puisse profiter du plus de sports possible, et surtout des sports qu'ils aiment.
Voilà, top, changé au dernier moment, merci Rouen. J'avais parlé du TFC, j'avais quelques lignes, mais c'est pas grave. D'ailleurs, mon flop, alors malgré la victoire, et je suis sûr que ça va vous faire réagir sur le plateau, malgré la victoire, les Australiens sont en dessous du niveau des top équipes de cette Coupe du Monde. On est un petit peu déçus de ne pas voir des équipes surprises, celles qui tiennent tant au cœur de Rouen à côté de moi, à cette place, puisque Eddie Jones est encore en train de faire des ajustements, notamment avec son buteur. Ils ont quand même heureusement qu'ils ont la chance et que surtout la jeunesse ou l'inexpérience des Portugais leur ont permis de faire la différence. Deux cartons jaunes, notamment celui de Vunivalu qui met un rafut au visage et encore un bunker et pas de carton rouge, qui l'aurait peut-être mérité.
Peut-être, mais c'est vrai qu'il me semble...
Un gros raffut au niveau du visage, oui. Il le voit arriver, c'est coup de coude dans le visage, point barre, voilà, ouais. Pas de risque, donc bunker, carton jaune, et ça n'a pas donné de carton rouge au final, ça le méritait pas, on en parlait dans le top de Corentin, qui n'est pas d'accord.
Mais ah non, c'est pas que je suis pas d'accord, c'était peut-être pour venir étayer un petit peu, expliquer que
le
rugby est en train de se de changer. Quand on voit les équipes européennes qui apportent un peu plus de densité, la réorganisation et puis surtout le Covid qui a fait beaucoup moins mal aux nations de l'Europe qu'aux nations de l'hémisphère sud. Quand on voit la Nouvelle-Zélande et l'Australie qui sont un peu mal en point, l'Argentine titube également, l'Afrique du Sud est en train de tenir bon mais parce qu'ils ont une belle génération, mais qu'est-ce qui va se passer après la Coupe du Monde? On va voir, mais bon, les équipes de l'hémisphère sud ont envie de se rapprocher de l'hémisphère nord. On sait pourquoi, c'est pour essayer d'apporter de la densité et parce qu'ils sentent que là, le train est en train de partir sans eux. Et cette année, la Coupe du Monde pourrait revenir, à mon avis, pour une nation de l'hémisphère nord, à mon avis.
Oh, il y a seulement 11 essais pour les Wallabies depuis le début de cette Coupe du Monde. Est-ce qu'on peut déjà penser qu'Eddie Jones est peut-être en train de partir à la recherche du job de cristal?
Mais on sait même que Eddie Jones, quand il est arrivé en... était d'ailleurs très 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 belle balaque. Oula, j'en perds mes mots tellement ça m'a touché. Non mais Eddie Jones, on sait qu'il est déjà en train de chercher un nouveau travail. Et quand même, il cherchait un nouveau travail avant même le début de la Coupe du Monde. Donc comme quoi, il n'a pas extrêmement confiance en son plan de jeu. Et du coup, oui, effectivement, c'est génial ce que de la manière dont le Portugal est capable de faire déjouer les Australiens. C'est absolument... décevant la manière dont les Australiens sont capables de jouer quand on sait les moyens qu'ils ont. On sait que c'est quand même la première nation qui s'est vraiment mise à la professionnalisation du rugby, alors parce qu'ils avaient l'héritage du 13 qui était lui déjà professionnel. Et d'ailleurs, je tiens à faire un petit clin d'œil, il y a eu la finale de NRL ce week-end qui a été absolument incroyable.
NRL.
Voilà, National Rugby League, qui est le championnat de rugby à 13 australien, qui est le deuxième championnat sportif le plus populaire au pays. Donc en Australie, hein, je ne suis pas australien, c'est pour dire en Australie. Après, la finale de football australien. Et une finale absolument incroyable où il y a eu un triplé d'un joueur que je ne vais pas vous citer parce que vous ne
le
connaissez sûrement pas.
Connaît,
voilà, et il y avait un essai à la toute dernière seconde qui a permis à un club de remporter son troisième titre d'affilée. Et c'est un scénario comme ça. Et quand on voit des scénarios et des matchs pareils, qui étaient absolument incroyables si vous aimez le rugby à 13, bah franchement, on se dit, on ne voit pas comment le rugby à 15 peut revenir devant en Australie. Ce n'est pas possible.
Donc on peut s'inquiéter des joueurs de rugby à 15 en Australie. Voici les tops et les flops de l'équipe. Tout de suite, il est l'heure de retrouver le face-à-face d'aujourd'hui.
Esprit Sport, le face-à-face.
Nous sommes justement avec Olivier Leprêtre. Bonsoir, alors je le rappelle, vous êtes préparateur mental, vous êtes aussi coach mental de la Fédération Française de Surf et du Stade Toulousain depuis 2008. Avant ça, pendant 2 ans, de 2006 à 2008, vous étiez du côté du Stade Français Paris. Vous êtes aussi formateur, conférencier, directeur de Mind & Co. Merci d'être disponible pour répondre à nos questions.
Je vous en prie, merci. Habile transition au passage. Hein.
Voilà, merci beaucoup. Bon, c'est travaillé, c'est une émission un petit peu travaillée.
Ouais, c'est un métier.
Avant de commencer, une question peut-être que tout le monde se pose. Comment on devient préparateur mental?
Ah, alors, on pourrait même dire comment on le devenait il y a 10 ans et comment on le devient aujourd'hui.
Ah bah alors voilà, regardez, comme tout est préparé, comment on l'était il y a 10 ans, comment on l'est maintenant?
Il y a 10 ans, il y avait assez peu de formations. Il y avait une formation en STAPS, c'était un master. Il y avait 2-3 masters en France, les masters d'experts en préparation mentale ou autres intitulés. Et aujourd'hui, la formation se développe un petit peu. Alors, il faut faire le tri. Il y a des formations de très haut niveau. Moi, j'avais créé une école. Je n'en fais plus partie. Je me suis séparé de mon associé, mais c'était en tout cas à l'époque une très bonne formation. Il existe des diplômes universitaires qui sont des formations sur une année.
Des diplômes reconnus par l'État ?
Oui. Et, enfin, si on peut le dire, c'est un métier qui n'est pas encore tout à fait reconnu par l'État. Il y a encore un peu de chemin, mais on est sur la bonne voie. Voilà. Mais il faut faire attention, parce qu'il y a des formations très courtes qui prétendent former des préparateurs mentaux. Imaginez bien que devenir préparateur mental ou tout simplement se former à un métier à 30 ou 40 heures, ça laisse pantois quand même.
Dans ces phases de préparation pour devenir préparateur mental, est-ce qu'il y a des phases d'apprentissage, d'expérience en entreprise?
Oui, évidemment, évidemment. La confrontation terrain est capable d'être en face à face avec avec un collectif ou avec un sportif en particulier est absolument nécessaire et c'est un métier qui demande beaucoup d'expérience pour pouvoir être pardon au niveau. Moi, ça fait donc vous avez dit depuis 2008, donc ça fait pas mal d'années que je suis préparateur mental et j'apprends encore.
Justement, être un préparateur mental, au final, ses missions, c'est quoi?
Missions sont nombreuses. Alors peut-être qu'on peut faire large, déjà parler du mental, parce que le mental, on en parle beaucoup, mais on ne
C'est
sait
un
pas
sujet
trop ce que
large.
c'est finalement. Le mental, c'est un des facteurs de la performance. Et il est assez courant de travailler la technique, le physique, l'hygiène de vie même, tout ce qui est stratégique, décisionnel, etc. Et le mental, c'est un peu la dernière roue du carrosse. Et finalement, c'est un élément aussi important que tous les autres facteurs de la performance. Et je dirais même plus. C'est un élément équilibrant et c'est un élément qui va permettre aux autres facteurs, et notamment à la technique, au sens plus large, le potentiel d'un sportif, de s'exprimer à son juste niveau, à sa juste
Être
valeur.
bien dans son corps, bien dans sa tête, est-ce que le préparateur mental peut intervenir dans les relations entre entraîneur et entraîné?
Oui, tout à fait. Alors, il faut que tout le monde soit OK. Il y a de plus en plus d'entraîneurs qui sont ouverts à ce travail-là. Et l'entraîneur peut le solliciter, le sportif lui-même peut demander à ce qu'il y ait un travail qui soit fait conjointement. Somme toute, c'est assez rare.
Donc forcément, il y a des conflits entre ces deux parties-là. Vous intervenez là aussi?
Bah, ça dépend de la nature du conflit. En général, non, mais ça peut arriver. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas là pour régler ces conflits-là. S'il y a des problématiques liées à l'entraîneur, on est là pour permettre au sportif de faire ses choix de manière éclairée, ça m'est arrivé, mais on n'est pas là pour penser à sa place.
Alors dans le cas des sportifs, on pense souvent à ceux qui sont au fond du seau, qui n'y arrivent pas. Comment à ce moment-là vous intervenez? Est-ce que c'est le dialogue qui prend une plus grande place dans les échanges?
Oui, de toute façon, c'est la base de ce travail-là, c'est du dialogue, ce sont des entretiens cliniques. On est là pour identifier au mieux le profil du sportif, quelles sont ses problématiques. Et tout le début du travail, alors c'est pas aussi schématique que ça, quelle que soit la situation, vous avez parlé d'une situation en particulier, mais c'est vrai que la plupart du temps, un sportif vient vers vous parce que ça va pas. Et rares sont ceux, j'en ai eu une ce matin qui est en équipe de France de sport en particulier, dont je parlerai pas, mais qui est venue me voir parce qu'elle sait que c'est un besoin et elle n'a pas de problème particulier. Mais ça, c'est plus rare. Donc, la plupart du temps, c'est un travail évidemment sous forme d'entretien. Et l'objectif de la préparation mentale, et du coup, je vais répondre à la question tout à l'heure sur l'émission, c'est à la fois de permettre aux sportifs de mieux se connaître, mieux comprendre les fonctionnements qu'il utilise depuis parfois des années, sans savoir pourquoi ça ne fonctionne pas. Et puis, c'est dans un deuxième temps, encore une fois, ce n'est pas aussi schématique, c'est plus complexe que ça, lui donner des outils pour gérer ces moments-là, pour apprendre à maîtriser sa confiance, à gérer sa concentration, à préparer ses courses, ses matchs ou ses scènes et être de plus en plus autonome. Voilà.
Est-ce que le fait qu'il y ait autant de dialogue avec les sportifs, c'est un petit peu comme si vous entrez dans leur intimité?
On entre un peu dans leur intimité, mais dans l'intimité à condition qu'ils veulent bien révéler enfin, ils révèlent ce qu'ils veulent révéler, mais en tout cas on fait partie on va dire des entités qui peuvent le faire et c'est aussi à ça que sert un préparateur mental. On est souvent la seule personne à qui ils révèlent des choses. On est la seule personne qui peut générer cette confiance-là, parce que l'entraîneur, évidemment, il a un regard, ça peut être un entraîneur sélectionneur, donc on ne va pas trop révéler nos faiblesses à notre entraîneur, sauf au cas particulier ou dans certains sports, ça se fait très bien. Donc le préparateur mental peut être aussi celui justement qui partage cette intimité et qui aide le sportif à mieux la vivre.
Coraline. Bonjour Coraline. Est-ce que vous êtes amenée des fois à travailler en relation avec des psychologues aussi peut-être?
Bonjour, oui, tout à fait. Dans la mesure où le travail qui se présente à nous, ou en tout cas les besoins de l'athlète, dépassent nos compétences, et quand on est sur des thématiques de dépression, des choses comme ça, ou même quand c'est des problématiques plus personnelles, on a des sportifs qui en font la demande. En tout cas, mon rôle est d'orienter vers un psychologue quand ça le nécessite, et souvent le travail est conjoint et très productif.
Vous exercez depuis le Stade Français Paris en 2006. Est-ce que depuis toutes ces années, vous avez vu que les sportifs, au fur et à mesure du temps, s'ouvraient plus vers vous, vous parlaient plus?
Alors, je ne dirais pas ça, hein, il ne parle pas plus. Le teneur du travail, même si j'ai beaucoup évolué, reste tout à fait tout aussi qualitatif. En tout cas, la démarche que va faire un athlète en termes de préparation mentale est différente. Et il y a de plus en plus d'athlètes qui font cette démarche-là. S'il y a une évolution à noter, c'est celle-ci. On en parle plus facilement, on fait la démarche plus facilement. Il y a encore du chemin, parce qu'on a intégré que c'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, un facteur essentiel de sa performance, et on en a besoin pour évoluer. Parce qu'on en parle de plus en plus, et je dirais même de mieux en mieux, encore la preuve ce soir, donc ça rentre un petit peu dans les mœurs du milieu du sport, et notamment du sport de haut niveau.
Pour ceux qui sont au fond du seau, tout le monde, tous ceux qui regardent la télé, doivent se dire « Oh là là, ça doit être dur d'enchaîner des défaites comme ça, ça doit être compliqué ». Pour ceux qui sont pas du tout en difficulté, pour les bons moments, quand une équipe ou un sportif surdomine son sport, est-ce que vous traitez ce genre de situation pour éviter peut-être de s'enflammer, de prendre, comme on dit, la grosse tête? Est-ce que à ce moment-là, le préparateur mental dire « Attention, on peut dire, attention, on se concentre, c'est une saison entière ».
Oui, alors ça c'est pas comme ça, mais oui, bien sûr, on a ce rôle-là. Si vous voulez, le métier de préparateur mental, c'est un métier d'équilibre. Et notre boulot, c'est de permettre à un sportif, et pas que des sportifs d'ailleurs, hein, mais essentiellement pour ma part à des sportifs, de trouver cet équilibre-là. Et cet équilibre, il est autant à trouver quand ça va pas que quand ça va bien. Parce que justement, comme on peut le dire vulgairement, il faut pas s'enflammer, il faut pas se penser à arriver alors que tout le travail reste à faire. Et ce sont des choses qui vont se dire peut-être autour d'une phrase ou deux, mais ça peut être un travail à part entière. En tout cas, c'est pas quelque chose... Le sportif ne viendra pas pour gérer ça. Il viendra la plupart du temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand il y a un problème.
Que quand il y a un problème, quand il y a une nécessité de récupération mentale, comment ça se passe?
Ça fait partie des grandes thématiques. Vous avez parlé de gestion du stress, gestion des émotions, développement de la confiance en soi, il y a aussi la concentration. Tout ça, ce sont les plus grandes thématiques de la préparation mentale. Et ce sont surtout des faces émergées de l'iceberg. En dessous de tout ça, il y a tout un mode de fonctionnement très complexe qui est très spécifique à chaque sportif et qui convient d'identifier au plus précis pour intervenir au mieux en faisant du sur-mesure. En fait.
La gestion du stress, quelque chose qui touche beaucoup de personnes, sportifs ou non.
Oui.
Florian, une question sur le stress, justement.
Oui, bonjour. Alors, pour les personnes qui vous écoutent, est-ce que vous avez... une petite astuce pour gérer le stress et surtout un petit exercice.
On pourrait évoquer la respiration, on pourrait évoquer la méditation, on pourrait évoquer tout un tas d'outils, mais il y a beaucoup de types de respiration différentes avec des fonctions différentes. Et moi, j'appelle ça des outils magiques. Alors, pas la méditation, parce que c'est un travail de fond et c'est un outil très, très puissant. Ces outils-là, pour moi, sont des pansements. Et le stress, c'est quelque chose d'assez complexe et assez simple à la fois. Et pour bien le maîtriser, bien le gérer, savoir s'en servir, parce que le stress doit devenir un allié. Le but d'un sportif, c'est surtout pas de ne plus avoir de stress, mais d'avoir, non pas le bon stress, c'est pas tout à fait exact, mais de savoir gérer son niveau de stress et de savoir faire en sorte qu'il ait le bon contenu. Donc, il y a un travail de fond derrière, et tous ces outils dont on peut parler ne seraient que des pansements sur des jambes de bois si ce travail-là n'a pas été fait en amont. Je pourrais dire, travailler sur votre stress, essayer d'identifier ce qui le déclenche, essayer de le comprendre, changer votre perception du stress, ce n'est pas un ennemi, on doit pouvoir en faire un allié, mais ça se travaille. Et la méditation, parmi les outils, en est un, mais c'est tout sauf un gadget parce que ça demande pas mal d'investissement.
Voilà, c'est comme quoi on peut même à travers une simple chronique peut-être avoir deux, trois astuces pour ceux qui sont en situation de stress. On peut le voir, on voit actuellement que c'est pas forcément une mauvaise chose. Merci beaucoup Olivier Leprêtre, on le rappelle, vous êtes préparateur mental de la Fédération Française de Surf et du Stade Toulousain depuis 2008, mais aussi formateur et conférencier directeur de Mind & Co. Où est-ce qu'on peut vous retrouver pour si certaines structures sportives nous écoutent?
Alors, vous me trouverez sur Internet facilement, tapez Olivier Leprêtre ou Mind & Go, pas Mind & Co. Et voilà, vous verrez plein de choses sur mon site.
Très bien, être bien dans son corps, être bien dans sa tête. Merci beaucoup Olivier Leprêtre.
Je vous en prie, merci à vous.
Un entretien évidemment à retrouver en podcast sur les différentes plateformes. Dans quelques instants, on se retrouve pour continuer cette émission, mais tout de suite, pour faire une petite pause, Francis Cabrel avec On arrive demain, film de Pour l'honneur, un film sur le rugby. Je vous le donne en mille.
Nos visages disent, nos paysages, nos yeux plissés de toujours regarder loin. après la poussière, après les herbes sauvages, après ces rivières devenues des chemins, l'air sec contre nos lèvres, un bâton, quatre chèvres, et voilà d'où l'on vient. On est vide dedans, comme des fantômes, on est sale dehors, comme des épouvantails, pour que nos enfants un jour deviennent des hommes. On est venu entasser comme du bétail. Vous n'avez rien à craindre, on ne vient pas pour se plaindre, c'est tout sauf un détail. Ouvrez, oh, ouvrez vos bras, ouvrez vos barrières, ouvrez vos cœurs, ouvrez vos yeux, ouvrez, nous sommes en chemin. Ouvrez, oh, rien n'empêche la misère de traverser la terre, on arrive demain. On a marché au sol, lueur de la lune, traverser des mers, longer des ravins, y a bien quelque part un brin de bonne fortune, comme c'est marqué dans les lignes de nos mains. On se dit que peut-être ailleurs un jour renaître, il suffirait d'un rien. Ouvrez, ouvrez vos bras, ouvrez vos barrières, ouvrez vos cœurs, ouvrez vos yeux, ouvrez, nous sommes en chemin. Ouvrez, oh, rien n'empêche la misère de traverser la terre, on arrive demain.
C'était Francis Cabrel à l'instant avec On arrive demain, BO de la du film, pour l'honneur. Retour sur Esprit Sport. Et tout de suite, il est l'heure de répondre, de tenter de répondre à cette question. Les phases de poule de la Coupe du Monde de rugby sont-elles trop longues? Messieurs, j'attends vos arguments. On va commencer par... Qui veut commencer en premier?
Allez-y.
Moi, je veux bien commencer.
Voilà, coup, c'est parce que Corentin est à distance et qu'il y a du délai.
C'est ça, exactement. Je profite des faiblesses de mon ennemi.
Alors, Erwan, est-ce que ces phases de poule de rugby, de Coupe du Monde de rugby, sont-elles trop longues? Il y a 40 matchs.
Alors, moi, je dirais qu'elles sont... Oui, elles sont trop longues.
Ça commence.
Et je dirais même qu'elles sont mal organisées. Mais par contre, ce n'est pas la faute du nombre de matchs en cumulé. C'est la faute du nombre de matchs par équipe, pour moi. Parce que franchement, si on avait un peu de diversité au niveau des équipes, et là, je vais revenir sur ce que j'ai dit la semaine dernière avec ma chronique.
Vous, l'amoureux des petits poussés.
C'est ça, exactement. C'est que si chaque équipe n'avait que... si on avait déjà des poules qui étaient paires, par conséquent, on n'aurait pas de semaines de trous où il y a plusieurs grosses équipes qui sont au repos et par conséquent, bah forcément, elles manquent un peu au calendrier. On ne les voit pas jouer et donc les matchs ont un peu d'intérêt. Le dernier week-end, il n'y a pas eu de six matchs avec un si grand intérêt que ça. Il y a eu des belles surprises. L'Australie-Portugal a été intéressant, l'Afrique du Sud-Tonga a été intéressant, mais ça a été intéressant. Ça n'a pas été du grand niveau de jeu.
Ils sont dispensables ces matchs-là.
Et je dirais pas qu'ils sont dispensables, c'est sympa de les avoir dans une Coupe du Monde, mais quand même c'est sympa de, d'avoir à 21h hein, un Afrique du Sud-Irlande, d'avoir un Écosse-France, j'invente des matchs qui pourraient potentiellement avoir lieu. Mais, voilà,
Écosse-France, vous vous projetez sur l'élimination des Sud-Africains?
Ah non, non, non.
Qui est possible.
Je dis potentiellement en phase de poule. non, mais c'est, et je trouve que c'est dommage d'avoir des poules déjà impaires. Ça donne un format bizarre où il y a plein d'équipes qui sont défavorisées, plein d'équipes qui sont favorisées, du coup, forcément. Notamment, là, on peut penser à l'Afrique du Sud qui va avoir une semaine de repos avant les quarts. Voilà, c'est quand même sympa. Donc je trouve qu'il y a vraiment une organisation qui est étrange au niveau des phases de poule. Et là, d'autant plus quand le tirage au sort a été fait quasiment 2-3 ans.
3 ans avant, début 2020.
Ans avance. Ouais, c'était en décembre, donc il me semble que c'était... C'était
très longtemps.
C'est à l'époque. Vraiment, il y a vraiment un énorme délai entre le moment où on a tiré au sort et le moment où les phases de poule ont lieu, ce qui fait que c'est complètement déséquilibré. Le format impair fait qu'il y a des pauses, des équipes sont obligées de prendre des pauses qui n'ont parfois aucun sens et qui sont arbitraires et qui sont pas justes, en fait, injustes pour certaines équipes. On a notamment, je vous laisserai regarder, hein, mais comme par hasard, il y a pas mal de petites équipes qui ont soit leur pause au tout début, soit à la toute fin. Voilà, il y a plein de grosses équipes qui avaient leur pause au milieu, comme pour se reposer entre deux matchs. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Après, je dis pas que c'est World Rugby qui a arrangé le calendrier. Pour permettre aux grosses équipes de se reposer, c'est vrai qu'on n'a pas vu ça par exemple en 2015 avec le Japon qui a battu l'Afrique du Sud et qui a affronté l'Écosse 5 jours après, on n'a jamais vu ça. Donc,
Non, ça dénonce.
Non, mais il y a un vrai problème d'organisation sur le calendrier. Donc,
donc pour vous, les phases de poule, oui, elles sont trop longues, mais c'est pas la faute au.
Du nombre de matchs.
Au nombre de matchs.
Voilà, c'est la faute du nombre de matchs par équipe. 4 matchs, c'est trop. 5 équipes par poule, c'est trop. Et quand c'est trop, c'est trop. Et le tirage aussi longtemps à l'avance,
c'est trop aussi.
C'est trop, voilà.
C'est trop longtemps.
C'est trop. Il y a trois fois trop. C'est trois fois trop.
Voilà. Corentin, est-ce que pour vous, les phases de poule sont trop longues ou est-ce qu'elles sont très bien?
Non, mais déjà, Erwan a annoncé tous les arguments, tout bien étayé. Je pense qu'on peut plier la boutique et vous dire à la semaine prochaine. C'est bon, il y a plus de débat. non, je plaisante. Pour moi, elles sont pas longues. Par contre, elles sont chiantes.
C'est sûr que c'est dit, mais différemment.
On va dénoncer nos aussi. Qu'est-ce que c'est chiant quand même ces phases de poule. Je trouve que World Rugby ne sait pas vendre son produit en fait. Le problème, c'est qu'on a quand même des poules qui sont denses, à part la poule Afrique du Sud, Écosse, Irlande, où il y a vraiment trois des cinq meilleures nations mondiales qui s'affrontent, où là, on a vraiment des matchs de haut niveau à chaque fois. Après, il y a deux équipes qui vont prendre peignée sur peignée, donc voilà, c'est pas intéressant. Mais pour moi, le produit est très mal vendu par World Rugby, d'une part par le problème d'organisation qu'a évoqué Erwan, mais d'une autre part, par le manque aussi de storytelling qu'on fait autour de la troisième place, qui est quand même une place qualificative automatiquement pour la Coupe du Monde. Et par exemple, s'il y avait eu une vraie catastrophe, l'Australie aurait pu ne pas terminer troisième de sa poule, être éliminée et potentiellement devoir repasser, faire un chemin de croix pendant 4 ans pour espérer se requalifier, faire partie des petits.
Mais l'Afrique du Sud peut être éliminée.
C'est ça, déjà être éliminé en étant troisième, c'est pour l'Australie, c'est gros. Mais alors être éliminé et en plus ne pas être qualifié pour la prochaine Coupe du Monde, alors je crois que la prochaine, elle sera chez eux, donc ils seraient qualifiés d'office. Enfin voilà, ça serait, ils pourraient titrer chez eux aussi inqualifiable comme on l'avait fait pour l'équipe de France en 94. Mais je trouve que le produit est très mal vendu parce qu'il y a des équipes qui, comme le Portugal par exemple ou la Géorgie, pourraient jouer quelque chose d'important dans leur poule pour aller chercher une qualification automatique. Enfin voilà. Et pour moi, il faudrait passer un format avec des poules de 4 et plus d'équipes pour se rapprocher un peu de ce qu'on peut trouver au foot, bien que au foot, on peut jouer tous les 4-5 jours. Au rugby, il y a besoin d'un petit peu plus de pause. Mais le problème entre le tirage en avance et le fait de ne pas avoir assez d'équipes plus des poules de 5, ça rend la phase de poule chiante. Parce que, en fait, il y a des week-ends, comme la semaine dernière, où c'est vrai qu'il y a peut-être des matchs qui sont un peu moins haletants que les autres. Et en plus de ça, c'est vrai que la France, par exemple, a pu organiser son calendrier un petit peu comme elle l'a voulu. C'est Fabien Galthié et son staff qui ont choisi de jouer l'équipe de France qui ont choisi de jouer la Nouvelle-Zélande en première. Donc, voilà, à partir de là où on laisse la possibilité à des équipes de s'organiser. C'est un petit peu comme disait Platini qui s'était arrangé pour avoir le Brésil seulement en finale, pour avoir un bon storytelling et s'éviter de prendre la plus grosse équipe du mondial en face dans la Coupe du Monde 98. Enfin, moi je trouve qu'il y a des soucis à ce niveau-là qui font que la phase de poule n'est pas longue mais qu'elle paraît longue.
Après, moi je suis d'accord sur l'idée. Voilà,
si tout le monde est d'accord, on ne fait pas de débat, on appelle ça la chronique où tout le monde est d'accord.
Sur un point, mais pas, sur, le format mais pas sur un autre. Voilà, c'est qu'effectivement, je voulais aussi faire la comparaison avec Michel Platini. J'hésitais à la faire parce que quand Michel Platini l'a dit, on s'est un peu dit, un peu tous, c'est un peu de la corruption quand même ce qu'il a fait là. C'est bizarre. Il s'est arrangé.
Le rugby ne fait jamais ces choses-là, voilà. En fait.
Non, mais espérons qu'il n'y ait pas de Michel Platini au rugby, en tout cas, tout du moins, tout ce qu'il fait dans les institutions. Mais par contre, là où je suis pas tellement d'accord, c'est que par contre le match d'ouverture France All Black, c'était communément admis que c'était une mauvaise chose sportivement et que c'était fait justement pour vendre le produit. Corentin le disait.
Parce que France Uruguay, ça aurait pas fait rêver.
Souvent les équipes qui organisent la Coupe du Monde font le match d'ouverture, ce qui est normal, mais souvent elles le font contre une équipe petite ou moyenne. 2015, c'est Angleterre-Fidji. 2019, c'est Japon-Russie, de mémoire. Et c'est souvent des petits matchs, entre guillemets.
Peut-être pour rappeler la rivalité historique entre la France et la Nouvelle-Zélande.
Oui, mais parce que ça se vendait bien. C'est vraiment, ils l'ont dit, ça a été affirmé lors d'une interview, il me semble, c'est que voilà, ça a été fait parce que ça se vendait bien. Alors que normalement, la volonté sportive aurait dû faire que France-Nouvelle-Zélande aurait lieu au bout de la deuxième ou troisième semaine, le temps qu'ils se chauffent pendant un match de Coupe du Monde, qu'ils prennent confiance, etc.
Non, faut pas qu'ils se chauffent, ils ont perdu, c'est très bien. On arrête.
Non, mais je parlais de la France surtout, comme c'est la France qui fait le...
Corentin qui a hoché la tête.
Non, ouais, je suis pas très d'accord avec cette idée de vendre le produit.
Enfin, quelque chose de différent. On n'est pas des oui, on est tous d'accord.
C'est sur la façon de l'aborder. Je pense que de toute façon, France-Nouvelle-Zélande, on n'a pas besoin de le vendre. C'est une affiche qui est historique. C'est comme au foot, France-Brésil ou France-Allemagne. Voilà, c'est des chocs. Dans tous les cas, si on avait eu l'Angleterre dans notre poule, le France-Angleterre, ça aurait été un choc également. Donc, moi, je parle de vendre le produit en général, d'arriver à faire en sorte que les gens s'intéressent aussi bien à un France-Nouvelle-Zélande que, par exemple, à un Portugal-Fidji, qui la semaine prochaine va déterminer si les Fidji vont terminer premier de poule, mais ils sont quasiment déjà sûrs d'être qualifiés, ou si les Portugais, s'ils avaient eu un parcours un peu plus heureux, peut-être aussi aidés par les arbitres pour faire écho à mon flop, les Portugais auraient pu peut-être jouer une qualification pour le prochain mondial. Et quand on voit ce que produit cette équipe de joueurs avec un niveau amateur et avec une équipe qui s'est construite sur quelques bases, sur des fondamentaux, quand on voit ce que produisent par exemple les Portugais en touche, voilà, moi je parle de ça, d'arriver à vendre autre chose que juste des grosses affiches, parce que sinon en fait on se met dans notre canapé que pour regarder Irlande-Afrique du Sud, France-Nouvelle-Zélande, un match Angleterre-Argentine, et puis après en fait ça devient la NBA, c'est-à-dire que il y a trois affiches dans l'année qui sont intéressantes, et puis on attend les playoffs, quoi. Donc c'est-à-dire que pendant un mois, voire cinq semaines du coup, on se sera bien embêté pour rester poli, quoi.
Le fait, vous parliez tous les deux que c'est le problème du nombre d'équipes. Est-ce que le fait de jouer deux matchs par jour ne permet pas justement de profiter pleinement des matchs? Quand il y en a trois, des fois, c'est un petit peu long, c'est un petit peu trop, non? Est-ce que ça risque pas de faire une sorte d'effet éphémère? On prend, on consomme et on oublie.
Ça dépend toujours des affiches, en fait. Moi je pense que hier, quand effectivement on a un Australie-Portugal et un Afrique du Sud-Tonga qui ont été deux très bons matchs, franchement j'étais agréablement surpris. Enfin moi personnellement le Portugal, c'est vraiment une équipe que j'aime beaucoup, mais même avant cette Coupe du Monde, mais je pense que pour le grand public ça a été vraiment une surprise de voir des matchs de cette qualité là. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait au niveau du calendrier? Il y a eu des week-ends, quand il y a eu un week-end où il y a eu le match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande, quand le même week-end il y a eu Pays de Galles-Fidji, on se dit, mais il n'y avait pas moyen de décaler le Pays de Galles-Fidji pour le faire pendant le week-end dernier. Il n'y avait pas moyen de mettre un des bons matchs, mais je dis même pas forcément un choc, il faut pas qu'il y ait la première et la deuxième nation mondiale qui se rencontrent chaque week-end. Mais je veux dire, au moins des matchs face à des équipes dont on sait qu'elles jouent. Enfin, je veux dire, il regarde du rugby quand même, World Rugby, rassurez-moi.
Ah ben, on espère. Quoique, des fois, on se pose la question. Corentin, d'accord, est-ce que deux matchs suffiraient amplement pour profiter de ces matchs, pour s'immerger dans cette ambiance qu'est la Coupe du Monde de rugby?
Alors oui, mais on peut aller même aussi plus loin, c'est-à-dire essayer de se rapprocher de ce que peut proposer le foot, par exemple. Alors tout ce que fait le foot au niveau de sa Coupe du Monde n'est pas idéal, mais par exemple, je suis surpris moi d'avoir des matchs que jeudi, vendredi, samedi, dimanche, selon les affiches, mais... Par exemple, quand vous avez une Coupe du Monde de foot, vous avez des matchs toute la semaine. Vous vivez au rythme de la compétition. Là, vraiment, déjà du lundi au mercredi, on attend. En fait, c'est ça aussi qui fait que cette phase de poule, elle paraît longue. Alors que s'il y avait plus de poules et qu'on pouvait peut-être intercaler un peu les matchs, etc., se donner une affiche par jour, Ça permettrait par exemple, alors certes il faut voilà, s'organiser au niveau du rythme, quitte à avoir peut-être quelques jours de coupure avant l'écart pour remettre un peu les organismes à zéro, mais faire en sorte que le pays vive au rythme du rugby. Là vraiment c'est pareil, du lundi au mercredi on est là à attendre. Qu'est-ce qu'on attend? Les compos, hein, les indiscrétions de ce qui s'est passé à l'entraînement. Enfin, et ouais, c'est pénible. Enfin, voilà, il nous manque quelque chose. Alors que, ben, par exemple, quand vous avez une Coupe du Monde au foot, ben, il y a peut-être un seul jour dans la semaine où il n'y a pas de match. Et après, vous vous levez, vous savez qu'aujourd'hui, vous allez bouffer du foot et que vous allez avoir, même si c'est un match, aujourd'hui, on dirait un match de hipster, voilà, de prendre deux équipes un peu... j'en sais rien,
un peu à la mode,
dirais, voilà, un petit Portugal contre le Costa Rica, voilà, vous avez envie de voir le Costa Rica qui est pas une équipe qui brille toujours dans le foot, ben voilà, vous avez un petit quelque chose à vous mettre sous la dent et
oui
et
c'est ça pour ça, c'est pour les aficionados du rugby peut-être qui ont envie de voir un bon Portugal Géorgie à 11h du mat.
Alors pas en journée par contre, mais c'est vrai que d'avoir un match tous les soirs par exemple, ben, je pense que c'est bien, ne serait-ce qu'en termes de voilà, de permettre à tout le monde de pouvoir profiter des matchs, parce que celui qui est allé voir un match à Marseille à 14h, s'il y a un gros match derrière, ben, peut-être qu'il sera dans les transports ou dans les bouchons pour suivre un autre match pour la Coupe du Monde. Et ça, c'est pas rendre service à tous les supporters et à toutes les personnes aussi qui profitent. On en a parlé la semaine dernière avec Monsieur Dardelet des retombées économiques. D'avoir des commerces qui tournent que jeudi à dimanche pour du rugby, peut-être que ça serait mieux qu'ils tournent toute la semaine avec des grosses affiches pour rythmer aussi leur semaine.
On va en parler à World Rugby, une chose promis, on en profite juste pour vous avez parlé de Marseille, Corentin, pour adresser une bise, une accolade à Coraline qui est à Marseille pour assister à un match de rugby, justement. Merci, donc à peu près le même avis, mais pas forcément d'accord sur les mêmes points, voilà, les avis divergent, et c'est ça le principal dans un débat. Tout de suite, il est l'heure de passer à la chronique.
Esprit Sport, la chronique.
L'une des icônes du cyclisme sur route, Peter Sagan, a annoncé sa retraite du monde professionnel. Au cours des dernières années, Sagan a été une vraie figure emblématique de ce sport et aujourd'hui, nous allons revenir en quelques coups de pédale sur sa carrière. C'est Erwan qui va se charger de faire cette belle chronique.
Le petit Peter, originaire de la Slovaquie, a commencé sa carrière professionnelle en 2009. Dès ses débuts, il a attiré l'attention grâce à sa polyvalence, sa puissance et son style unique sur le vélo. Mais c'est au fil des années qu'il a véritablement brillé et créé son palmarès exceptionnel. En 2012, Sagan a remporté son premier maillot vert du meilleur sprinteur au Tour de France, marquant ainsi le début d'une série incroyable de 7 victoires consécutives dans cette catégorie. Son sens tactique, sa capacité à sprinter à la fin des étapes difficiles et ses célébrations inimitables ont conquis les fans du monde entier.
Peter Sagan va remporter sa première victoire sur le Tour de France. Le Slovaque qui remporte à 21 ans sa 37e victoire, lui qui a gagné dernièrement le championnat de Slovaquie sur route, qui a gagné 4 victoires au Tour de Suisse, qui en a gagné autant au Tour de Californie, 5 même au Tour de Californie, qui avait gagné sur Tirreno Adriatico 3 jours de la panne, qui avait gagné une étape au Tour d'Oman. Eh bien, Peter Sagan remporte sa première victoire sur le Tour de France pour sa première participation. Et vous l'avez dit, ce garçon n'a que 21 ans. C'est un futur très grand.
Mais Peter Sagan n'était pas seulement un spécialiste des sprints. Il a également remporté des classiques majeurs, tels que Paris-Roubaix et le Tour des Flandres. Mais surtout, il accumule 12 victoires d'étape au Tour de France. Sa victoire au championnat du monde sur route en 2015 a été l'un des moments les plus mémorables de sa carrière. Suivi par des défenses réussies en 2016 et 2017, il est le seul cycliste de l'histoire à avoir remporté 3 titres d'affilée. Outre ses exploits sur le vélo, Sagan a également marqué les esprits par sa personnalité. Charismatique et parfois même auteur de coups de sang, ses célèbres saluts pistolets et ses interviews pleines d'humour sont devenus légendaires dans le monde du cyclisme.
Life continue, life. Show must go on.
Et maintenant, the show must go on, monsieur Sagan. Et vous apprêtez à ranger le vélo dans le garage, mais vous laissez derrière vous un bel héritage. Votre carrière de près de 15 ans sur la scène professionnelle a inspiré de jeunes cyclistes. Votre polyvalence et votre capacité à vous adapter à toutes sortes de discours ont fait de vous une légende. Alors que nous vous disons au revoir en tant que coureur professionnel, nous ne pouvons qu'espérer vous voir rester impliqué dans le monde du cyclisme, peut-être en tant que mentor ou en tant que commentateur. Quoi qu'il en soit, nous n'oublierons pas les moments incroyables que vous nous avez offerts sur la route.
Eh bien, quelle chronique de un véritable coup de cœur cycliste, j'ai l'impression, Erwan, Peter Sagan, qui raccroche les chaussures à crampons pour sa belle carrière avec 3 titres de champion du monde d'affilée, consécutifs.
Oui, effectivement.
Voilà, donc c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Corentin, comment vous avez vécu cette belle chronique? J'espère que vous n'avez pas eu trop besoin de mouchoirs pour pleurer.
Non, mais par contre, les frissons quand on se rappelle de l'immense carrière de Peter Sagan et surtout quand on sait aussi que cette année va être la fin de carrière d'un certain Thibaut Pinot, on a de grandes icônes du cyclisme de notre génération qui sont en train de partir et on leur rendra tous un grand hommage.
Voilà, l'hommage est fait et on va pas tous prendre la retraite en même temps parce qu'on va pas faire des chroniques un petit peu tristes comme ça toutes les semaines. En tout cas, tout de suite, pour terminer cette belle émission, ce 5e numéro d'Esprit Sport, moi ce que je vous propose, c'est de vous donner des arguments pour les pronostics. Quand c'est avec les bons jiggles au bon moment, c'est quand même vachement mieux. On se dirige avec un petit peu de foot. On en a parlé en tout début, tout début même d'émission. Le TFC reçoit le Linzer Ask, une équipe de Haute-Autriche à 21h. C'est pour la Coupe d'Europe qui est de retour au Stadium depuis le 1er janvier 2009. Et Corentin, vous avez 30 secondes pour nous dire le pronostic et pourquoi.
Alors déjà 30 secondes pour dire que l'équipe que va affronter le TFC, dont je ne me risquerai pas à prononcer le nom pour éviter de me ridiculiser, c'est une équipe que je ne suis pas, donc on va plutôt se concentrer sur la dynamique du TFC pour faire ce pronostic. Alors attention à ne pas être trompé par cette équipe du FC Metz et qui est venue prendre une petite valise à Toulouse. Le TFC a peut-être un petit peu de mal sur la scène européenne en jouant un petit peu timoré. Et donc je dirais que les Toulousains vont faire comme la semaine passée, c'est-à-dire un match nul, je dirais un partout, comme la fois passée.
Voilà, un partout, très bien. Ça nous tient, on prend pas trop de risques, Corentin, sur ce pronostic, hein ?
Non, pas trop de risques, mais en même temps, c'est vrai que c'est compliqué avec la Coupe d'Europe d'arriver à vraiment jauger encore le niveau du TFC qui nous propose des prestations en dents de scie cette saison.
Très bien. Erwan, top départ, 30 secondes.
Moi, je pense que Toulouse peut faire un petit coup après avoir retrouvé de la confiance face à Metz. Alors, un petit coup, bien évidemment, il faut dire que les deux équipes sont à des niveaux modestes. Hein. Effectivement, Toulouse retrouve l'Europe. Et effectivement, l'équipe autrichienne n'est pas une équipe connue du grand public, une équipe avec une grande renommée. Mais je pense que Toulouse, avec la blessure de Zakaria Bourlal, se sent obligé de se porter vers l'avant et d'essayer d'aller un peu plus marqué. Donc je pense qu'ils ont moyen peut-être de faire une victoire 2-1, je pense, avec un but.
Trop tard, c'est 30 secondes, le micro se coupe automatiquement, c'est comme ça, c'est la règle. Erwan, vous étiez au courant?
Oui.
Vous le savez?
Je le savais.
Vous avez tenté de jouer avec la règle, et la règle a dit stop. Très bien. Allez, on prolonge un petit peu le plaisir. Corentin, vous avez 20 secondes maintenant pour le France-Italie, jeudi à 21h.
Alors France-Italie, ben, je pense que déjà faut pas s'attendre à ce qu'on mette une peignée comme on fait les All Blacks. On va tomber contre une équipe d'Italie qui va être remontée. Je dirais que la France va gagner quelque chose comme 40-10 avec un petit essai de Damien Penaud. Un Dupont au placard, préserver le nous, et puis voilà, une équipe qui va être rodée pour les quarts de finale.
Ah ben vous par contre vous avez préféré prendre le temps, mais en tout cas c'est très bien, c'est noté. Un Dupont au placard et un nouveau terme, la peignée. Bon, on découvrira ça un petit peu plus tard tout au long de cette année. Hein. Merci beaucoup Corentin. Erwan, top départ.
Moi je pense que ce France-Italie, il peut être intéressant pour juger les deux équipes. Alors l'Italie, elle risque sûrement pas de continuer, sauf vraiment grosse surprise en battant la France chez elle, ce que je n'imagine pas sincèrement, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant pour la France, pour voir comment des joueurs comme par exemple Lucu ou Villiers vont faire pour se remettre en forme, pour se remettre dans un rythme qu'ils ont du mal à prendre dans ce début de Coupe du Monde. Et voilà, moi je pense qu'ils vont gagner largement avec 20 points d'avance.
Ah, là, ça se mouille. Alors, je veux pas dire Corentin, mais ça se mouille plus d'un côté que de l'autre, sachez-le.
J'ai dit 40 à 10.
Oui, non, mais bon, oui, très bien. 40 à 10, il y a plus de 75 points. On vous en tiendra rigueur, messieurs. Écoutez, il est déjà l'heure de se quitter après cette belle heure passée ensemble pour parler de sport. Merci beaucoup, Erwan, pour vos avis tranchés et votre coup de cœur, surtout votre chronique intime, presque. Vous avez dévoilé une partie de vous avec ce vélo.
Merci à vous, et avec la petite chronique, ça me donnait envie d'aller faire un petit peu de vélo au nord de Toulouse.
Peut-être pas tout de suite. Corentin, merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Toujours des analyses piquantes et tranchées. Soyez avec nous, restez avec nous, parce que nous allons retrouver évidemment plusieurs actualités. Encore une nouvelle fois, et nous allons donc retrouver dès la semaine prochaine le président du club de Lourdes qui sera avec nous pendant cette interview pour parler bien évidemment du club de Lourdes, ce club historique. Jean-Pierre Armengo, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve donc la semaine prochaine pour parler pendant une heure de sport.